19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver chers amis auditeurs partout en France. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et merci de votre fidélité. Une heure ensemble jusqu'à 20h, oui, les informés sur Beurre FM. Eh bien, qu'allons-nous vous proposer eh bien ce soir pour clore un peu cette semaine et démarrer un week-end en soleil, je l'espère, et on vous le souhaite. Au menu, aujourd'hui, nous allons démarrer avec une interview avec SOS Racisme qui organise l'événement des 60 ans des accords d'Évian. Ils sont quasiment les seuls à le faire. Nous aurons le président, son président, Monsieur Dominique Sopo, qui sera avec nous dans une poignée de minutes. Mais également aussi une figure emblématique du Hirak en Algérie. Souvenez-vous, il avait couvert avec nous ici même sur notre antenne. Il s'appelle Hakim Haddad. Il sera avec nous aussi pour parler des 60 ans des accords d'Évian. Nous consacrerons aussi également ces 60 ans des accords d'Évian. Quel est le rapport finalement avec les jeunes ici, avec la France, l'Algérie? Vous savez, ce rapport tumultueux en permanence, nous allons l'aborder, nous allons en parler. Et finalement, pour quelles raisons, effectivement, aujourd'hui, la fin de la guerre d'Algérie, on en parle encore et encore en 2022. Ensuite, autre sujet qui a retenu notre attention, ça ne vous a pas échappé. À droite toutes. Ah, pardon, ah, j'ai fait une gaffe. Je parlais de Macron. Clochette. Oh là 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 là. Mais non, mais je ne fais que dire ce que je lis devant moi, c'est-à-dire les réseaux sociaux qui disent à droite toutes. C'est pas mon opinion. Attention, clochette. Bon, bref, vous l'aurez compris, on va parler des propositions d'Emmanuel Macron. Elles ont été dévoilées. Alors ça tacle la mort, hein. Ça tacle la mort parce que les propositions, ils disent que c'est du réchauffé. Alors nous, avec nos débatteurs influenceurs, Maître David Limeskine qui sera avec nous et qui commentera avec son, évidemment, son langage brut de décoffrage, viendra nous livrer. Il n'est pas macroniste du tout. Hier, j'avais que des pro-macronistes hier sur le plateau. C'était drôle. Il y avait trois, on aurait dit, Giovanni. Les trois étaient pro-macronistes. Ils étaient là à défendre encore et encore Macron. Mais ils ont raison. Ils sont animés par des convictions. Et puis aujourd'hui, nous aurons, alors, j'ai essayé d'équilibrer le plateau, des pros, des anti, des justes milieux, etc. Bref, nous parlerons de son programme présidentiel et vous saurez tout à l'heure. Le Quoi de Neuf avec Michel Taube, c'est à 19h30 précise, vous le savez, son billet d'humeur, ça se passe ici comme chaque vendredi. Mais surtout, vous, au 01 53 48 3000, un seul numéro, partout en France, vous nous appelez, vous envahissez plutôt le standard, pour venir parler, commenter, analyser, décrypter avec nous l'actualité. Les informés, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression, c'est parti.
Beurre FM, 19h-20h. Les informés avec Adil Farkan.
C'est parti avec l'invité du jour.
Les informés, l'interview.
Et l'interview, c'est avec le président d'SOS Racisme, Monsieur Dominique Sopo. Monsieur le président, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous, mon cher président?
Très bien, ça en va. Cette veille des 60 ans du 19 mars.
18, exactement. Les accords d'Évian, je ne vous l'apprends pas, ont mis fin officiellement, mais surtout politiquement, à cet affrontement entre les forces françaises et algériennes, et le mouvement nationaliste algérien. Alors, dites-moi, mon cher Dominique Sopo, monsieur le président, vous, SOS Racisme, a décidé d'organiser et de marquer le coup.
Oui, nous avons décidé d'organiser une journée demain, le 19 mars, parce que les 60 ans des accords d'Évian, d'ailleurs, c'est aujourd'hui, puisque c'est le 18 mars que ces accords ont été signés, et le 19 mars, c'est la date d'entrée en vigueur du cessez-le-feu, qui marque justement le fait que les armes se sont tues ou devaient se taire à partir de cette date qui ouvrait de toute façon irrémédiablement, évidemment, la voie à l'indépendance de l'Algérie. Donc nous organisons une journée demain à l'hôtel de ville de Paris, à partir de 9h30 jusqu'à 20h30, à travers des tables rondes de discussion avec des témoins de l'époque, des acteurs de l'époque, hein, qui sont porteurs aussi de différentes mémoires finalement, parce que cette question algérienne, cette histoire algérienne de la France est une histoire très complexe, avec beaucoup de groupes qui ont été plongés dans cette violence qu'ont été pendant 8 ans la guerre d'indépendance de l'Algérie. Et donc nous allons discuter avec ces acteurs de l'époque qui sont divers, hein, évidemment. Nous allons aussi discuter l'après-midi avec des porteurs de mémoire. Qu'est-ce qu'on fait finalement de ces mémoires? qui sont antagonistes, et nous allons aussi discuter, créer des espaces de discussion autour de l'actualité de ce sujet qui reste très présent et qui même marque cette campagne présidentielle. Comme je dis souvent, on ne peut pas comprendre Éric Zemmour, de certains points de vue, si on fait abstraction de ce passé algérien de la France, dont il est, j'allais dire, un bien triste symptôme.
Vous êtes quasiment les seuls à organiser cet événement autour de la commémoration des 60 ans, les seuls à faire vivre cet événement. Vous l'avez évidemment inscrit sous la forme de, j'ai vu, hein, liberté, égalité, fraternité. Quand on voit liberté, c'est de 9h à 15h30, et l'égalité, c'est de 15h30 à 16h30, et la fraternité, c'est de 18h30 à 20h30. Pour quelle raison, Monsieur le Président ?
Oui, alors les horaires ne sont pas tout à fait ceux-là, mais presque quand même, en tout cas c'est dans ce sens-là, parce que la liberté, ben, c'est ceux qui se sont battus pour l'indépendance. Il y a quelque chose qui renvoie à la liberté, que ce soit les personnes qui ici étaient engagées dans des mouvements pour l'indépendance. On aura notamment une ancienne militante du PSU, qui était un des mouvements de gauche qui était engagée contre la colonisation en Algérie, bien évidemment. Nous aurons des personnes qui étaient engagées dans le FLN, des personnes qui étaient alors appelées, qui ne se sont pas battues pour l'indépendance, pour la liberté de l'Algérie, mais qui en sont sorties quand même souvent traumatisées, aujourd'hui essayent d'en faire quelque chose j'allais dire, en appui de la paix et en appui de la liberté des peuples. Ensuite, l'égalité, parce que évidemment il y a quelque chose à discuter, parce que ce passé-là a entraîné dans notre pays des systèmes de représentation qui sont encore extrêmement présents. On ne peut pas comprendre le racisme anti-arabe en France, par exemple, en faisant abstraction de ce passé algérien de la France. Et donc, il se pose aujourd'hui des questions d'égalité en matière de discrimination raciale, en matière de traitement par la police de toute une série de populations, notamment d'origine maghrébine, et puis la fraternité, parce que nous finirons par un moment convivial avec le groupe Babel West, notamment, un moment festif et convivial, parce que au final, ce à quoi nous appelons, ce n'est pas de ressasser le passé, hein, ce n'est pas, comme le disent certains, de faire de la repentance ou je ne sais pas quoi, c'est de savoir comment on est clair sur ce qu'était cette période, à savoir une période qui est une période de colonialisme, et que le colonialisme, de toute façon, est illégitime et est une violence à laquelle il faut mettre un terme. Et ceux qui avaient raison sont ceux qui se sont battus, évidemment, pour l'indépendance. Et en même temps, comment dire, de cette histoire traumatique, on arrive à la dépasser pour que ensemble, on puisse collectivement se projeter dans un avenir commun.
Dis bien, Dominique Sopo, Monsieur le Président, demain, c'est un rendez-vous, et surtout à ne pas le manquer dans les salons de l'Hôtel de Ville de Paris. Ça commence dès 9h, ça finit à 20h30, avec évidemment, vous l'avez rappelé, ce moment convivial en musique pour clôturer la soirée. Merci, Monsieur le Président. Donc demain, rendez-vous à ne pas manquer, hein, si j'ai bien compris.
Un rendez-vous à ne pas manquer avec Ali Cherki, avec Pierre Audin, avec Bachir Hadjadj, avec Paul Max Morin, avec Hakim Haddad, que vous allez recevoir dans quelques instants, voilà, avec plein de personnes qui sont porteuses aussi de belles choses à dire et de propos intéressants, je pense, à entendre et à partager. Je pense que si on veut que ce passé soit traité correctement, bien, il faut aussi se mobiliser pour ce type d'événement, être présent, venir débattre, venir discuter. Voilà.
Merci Dominique Sopo, merci Monsieur le Président d'SOS Racisme. Tout de suite, nous allons accueillir Hakim Haddad, une des figures justement du Hirak. Bonsoir Hakim Haddad.
Bonsoir, salam alaikum, matal khair.
Merci. Bonsoir à vous. Merci à vous d'être parmi nous. Nous sommes heureux de vous retrouver puisque j'ai le souvenir évidemment, et les auditeurs ont le souvenir, que vous aviez vraiment, comment dirais-je, participé sur notre antenne à couvrir l'événement du Hirak. Aujourd'hui, vous êtes avec nous. Demain, c'est les 60. Aujourd'hui, c'est les 60 ans des accords d'Évian. J'ai une question à vous poser, Hakim, justement, Haddad, parce que vous connaissez les deux rives, l'Algérie, la France. Quel est le rapport aujourd'hui des jeunes Algériens avec la France, et à l'inverse aussi avec, quand on parle des 60 ans des accords d'Évian?
D'abord, merci de votre invitation. Et juste avant de revenir sur l'initiative qu'organise demain SOS Racisme, justement parce que je voudrais y revenir, le rapport des jeunes Algériens n'est pas... il est beaucoup... Vous disiez tout à l'heure dans l'introduction qu'il y avait des conflits, que la situation était conflictuelle dans la tête de certaines des peuples, je pense que vous parliez de, oui. des peuples français et algériens, en fait, sur le côté algérien, il est beaucoup plus apaisé. Il est beaucoup plus apaisé, que, y compris que ce soit sa jeunesse ou les non-jeunes, que ce qui malheureusement peut être vécu en France. Il est apaisé d'abord parce que ça a été une victoire pour les Algériens. Voilà, donc il n'y a pas besoin de trop revenir. Et puis, c'était un peuple uni qui se battait pour sa liberté et pour son indépendance et sa dignité. Donc il n'y a pas eu différentes parties IES du peuple algérien, mis à part bien évidemment les supplétifs, ceux qui ont été appelés les harkis. Mais pour mis à part les harkis, tout le reste, c'était le même peuple, donc qui a souffert, qui s'est battu et qui s'est libéré. Donc il n'y a pas trop d'animosité. Le problème, il n'y a pas d'animosité même, je dirais.
Est-ce que vous avez le sentiment, Hakim Haddad ?
Il y a le fait, bien évidemment, juste je voudrais dire ceci, c'est que la France reconnaisse que le colonialisme est une ignominie, voilà, est un crime contre l'humanité, ou en tout cas que la France reconnaisse une bonne fois pour toutes que le colonialisme est une chose négative, est un acte négatif. Voilà. Mais mis à part ça, il n'y a pas d'animosité vis-à-vis de la France, et encore moins vis-à-vis du peuple français. Par contre, nous en parlerons peut-être, par contre, effectivement, il y a un travail des Algériens sur l'Algérie et sur la manière et dont les autorités algériennes et le pouvoir algérien depuis 62 utilisent le colonialisme et la lutte et la guerre d'indépendance algérienne pour se maintenir au pouvoir. On fait quelque chose, une marchandise pour se maintenir au pouvoir de manière fait de l'histoire algérienne de manière populiste pour continuer à rester au pouvoir.
Est-ce que vous avez le sentiment que justement ces Algériens, ces jeunes Algériens sont attachés à l'histoire de leur pays d'origine?
Oui, bien évidemment. Ils l'ont démontré pendant le Hirak, justement, les jeunes, et c'était entre autres à l'adresse des autorités algériennes, puisqu'ils ressortaient avec les figures, les portraits des héros de la lutte pour l'indépendance, que ces héros soient au masculin ou au féminin. Oui, bien évidemment, ils se reconnaissent dans la lutte, et ils savent, en tout cas pendant le Hirak, la lutte n'était pas terminée en 1962. En 1962, ça a été la lutte pour l'obtention et la libération du pays, de la terre algérienne, mais qu'il y avait une continuité à faire, en l'occurrence, qui est inscrite également dans la déclaration du 1er novembre. Ça veut dire la lutte pour citoyenneté algérienne, la citoyenneté véritable et pas celle jusqu'à aujourd'hui, oui.
Hakim Haddad, qu'est-ce que vous avez envie de dire, livré comme message? Que faut-il faire finalement quand on dit 60 ans après la fin de la guerre d'Algérie? Est-ce que la question, par exemple, je vous pose la mémoire, de la réconciliation des mémoires entre la France et l'Algérie se pose toujours? Est-ce que l'histoire de cette période, est-ce qu'elle évolue ou est-ce qu'elle diffère? Qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous, et qu'est-ce que vous avez envie de livrer justement comme principal message?
C'est lourd, mais en fait c'est plutôt facile. Voilà. D'abord, il n'y a pas l'expression de réconciliation entre les deux peuples. Je ne vois pas trop l'utilité, parce qu'ils ne sont pas en guerre. Les deux peuples ne sont pas en guerre. Il n'y a pas besoin de se réconcilier. Ils vivent ensemble. Ils vivent même de manière attachés, voilà, ce qui l'histoire nous a liés, nous continuons à vivre ensemble. Donc cette histoire. Par contre, d'un côté, en Algérie, ça répondra à votre question, en Algérie, il faut qu'on fasse en sorte, mais cela viendra par la démocratisation du régime algérien, je ne crois pas que ça puisse être possible aujourd'hui, donner aux historiens et aux chercheurs la possibilité de parler de l'histoire telle que véritablement elle a eu lieu, avec ses bons et ses mauvais côtés. Nous ne pouvons pas continuer en Algérie à instrumentaliser l'histoire, à instrumentaliser le passé, que à des buts politiciens et politiques. Voilà.
Merci. Hakim Haddad, acteur associatif, figure emblématique du Hirak. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Et demain, je pense que vous allez être au rendez-vous au salon, donc des salons à l'hôtel de ville, pardon, de Paris. Rendez-vous à ne pas manquer, Hakim, hein, c'est bien ça.
Oui, vraiment, j'insiste que c'est une très forte et une très bonne initiative. D'abord, juste, je peux en dire quelques mots.
En quelques secondes, parce qu'on doit lancer la pub.
On n'en est pas à sa première. ça fait 3 ans, 4 ans qu'elle travaille sur des questions à travers un projet qui s'appelle Regard Croisé, de rapprochement entre la jeunesse algérienne et la jeunesse française. Bon, il y a, l'association a organisé la même initiative que celle qui est organisée demain à l'occasion, donc le 17 octobre, les 60 ans du 17 octobre. Donc c'est véritablement la seule initiative qui met en présence des gens des anciennes générations, les anciens, comme ce qui vient d'être dit par M. Sopo, et les jeunes d'aujourd'hui qui pourront écouter des anciens et puis poser des questions et s'imprégner un peu de la réalité de ces passés-là ou de ce passé-là. Donc vraiment, c'est une très forte initiative que je salue très fortement et malheureusement aussi, c'est à se poser quelques questions, la raison pour laquelle, pourquoi c'est sur ces 60 ans, il n'y a qu'une seule association ou que cette association qui organise une initiative aussi importante en tout cas.
Voilà. Merci infiniment Hakim Haddad d'avoir été avec nous et rendez-vous à ne pas manquer dans les salons de l'Hôtel de Ville de Paris. 19h16, merci Hakim, à très bientôt Hakim Haddad. 19h16, on marque la première pause pub et on se retrouve avec messieurs. Bonsoir Maître Levinskine. Bonsoir mon cher Karim.
Bonsoir.
Alouache, bonsoir. Ah, pourquoi vous me regardez comme ça vous, Ami Friette?
Oui,
je vous taquine. A tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, Les Informés avec Adil Farkan.
Et on est en direct, et c'est comme ça, 19h23, bonsoir, donc David, Maître David Levinskine, bonsoir.
Rebonsoir.
Comment ça va?
Ça va.
Messieurs, nous allons parler de ces 60e. Je vais dire aussi, je vais faire un tour de table. Bonsoir Karim Alouache, comment ça va?
Bonsoir.
Notre financier et acteur politique local sur la ville de Bondy, comment ça va?
Alors je ne suis plus acteur.
Ah oui, c'est vrai, vous ne l'êtes plus. Non, vous ne l'êtes plus, c'est fini.
Je prends du recul.
Ça y est, vous avez pris du recul, ça y est, c'est vrai, effectivement.
Pour l'instant, je laisse ça à d'autres.
Exactement.
Je suis reparti dans mes affaires et puis j'essaye d'aider au mieux aussi les jeunes. Voilà.
Ahmed Friel, bonsoir.
Bonsoir.
Comment ça va?
Très bien.
Bon, allez, nous allons démarrer tout de suite avec la guerre d'Algérie. Les 60 ans après les accords d'Évian et le cessez-le-feu de mars, souvenez-vous, 1962, enfin souvenez-vous, évidemment, pour certains. J'ai envie de vous poser cette question aujourd'hui. Est-ce que finalement, les accords d'Évian du 18 mars 1962 continuent de susciter polémiques et interrogations 60 ans après? C'est vrai, la question se pose. Qui veut prendre la parole en premier? Karim? Tiens, Karim Alouache.
Bah, écoute... Moi, je dirais que ça doit être la fin de quelque chose, ces 60 ans. Et, enfin, en tout cas, moi, j'ai envie que ce soit la fin de quelque chose et qu'on arrête de vivre dans le passé. D'abord parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont plus là aujourd'hui, hein, qui ont participé. Et il faudrait que ce soit le début d'autre chose, puisque je vous rappelle que ça a été aussi le début d'autre chose, puisqu'une grande partie des binationaux sont binationaux de par les accords d'Évian. Et de par le fait que d'être né après 62 a fait qu'ils sont nés de droit. Hein. Y a un avocat à côté de moi, hein, de droit français. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont français de naissance et ils n'ont pas demandé ni un rattachement, ni une naturalisation, ni aucune démarche. Ils sont nés français. Et je pense que. Moi, je ne suis pas quelqu'un. Tu sais, pour moi, déboulonner des statues et autres, ça ne règle pas les problèmes, en fait. J'avais dit ça à un moment donné sur l'esclavage, le fait qu'on déboulonne. Il faut vivre avec son histoire, il faut l'assumer, il faut la reconnaître aussi. Et je pense d'ailleurs que les. En tout cas, moi,
et pourtant, on parle toujours de réconciliation, hein, Karim Alouache.
Non, mais en fait.
et on continue d'en parler.
Ben nous, d'abord, on est et français et algérien, donc on est en guerre avec personne. Sinon, on sera en guerre avec nous-mêmes déjà, sur notre côté, sur notre volet français. Il y avait une très belle émission, je crois, en début de semaine, une série de six films qui était très bien, qui raconte.
Sur France 2.
Après, entre nous, il n'y a pas une colonisation qui se fasse il n'y a pas de bonne colonisation. Comme il n'y a pas de bonne guerre.
Tout à fait.
C'est celui qui me dit on a eu une bonne guerre, ben une bonne guerre est horrible, criminelle, avec des exactions, je dirais, catastrophiques et extrêmement répréhensibles. Maintenant, j'ai envie de dire, il faut passer à autre chose.
Il faut passer à autre chose. Bon, on fait un tour de table, justement. Maître Levinskine.
Alors, pour moi, les accords d'Évian, c'est déjà avant tout la fin d'une guerre qui a duré 8 ans, qui a fait 250 000 morts ou 1 million selon le FLN.
C'est ce que j'allais vous dire, ouais. Voilà.
Voilà, selon le FLN, peut-être on peut se situer entre les deux, quoi. 1 500 000. Et c'est 32 années de colonisation. Donc, comme tu disais, il y a. De toute façon, On n'a même pas à se poser de question si une bonne ou une mauvaise colonisation. La question qui se pose, c'est qu'on n'a pas besoin de la colonisation.
Il y a eu un bon esclavage.
On peut faire un parallèle, même si évidemment avec toutes les nuances qui s'imposent, avec la Russie et l'Ukraine, parce que là ils sont en guerre. Là, la Russie est en train de coloniser l'Ukraine. Donc, si tu veux, c'est d'actualité. Après, effectivement, tu parlais de réconciliation, j'ai jamais trop compris pourquoi. C'est vrai que depuis des années, il y a je t'aime moi non plus entre un petit peu entre la France et l'Algérie. Et une instrumentalisation des dirigeants algériens de la dictature militaire vis-à-vis de la France. Mais ce qui m'intéresse, moi, en fait, c'est ce que pensent les générations d'aujourd'hui.
C'est ça, la jeune génération.
Voilà, les jeunes générations. En fait, le problème, en fait, qui a persisté et qui persiste un petit peu pendant des années, c'est pas le fait de crier la guerre contre le colonisateur, la France. Pour moi, c'est la question de la discrimination. Voilà, les jeunes aujourd'hui, depuis des décennies, se sentent discriminés dans l'emploi, dans leurs entreprises. C'est ça la question. C'est
l'emploi ou le logement
tout à fait, le logement. C'est sans lien en fait avec la guerre d'Algérie, parce que ça reste un peu lointain. Mais ce qui est terrible, c'est d'entendre en fait des nouvelles générations, des jeunes d'aujourd'hui en fait, qui ont le sentiment d'être toujours discriminés. Et ça, c'est un maquette et ça, c'est inquiétant.
Si je me permets. C'est pas un sentiment, c'est une réalité. De toute façon, on sent bien quand tu es franco-algérien. Mmh. Et c'est pas les jeunes générations. Hein. Moi, je fais partie, je suis la première génération des enfants de l'immigration.
Oui.
Et la première génération en plus des binationaux.
Tout à fait. C'est-à-dire
ceux qui ont découvert à 18 ans qu'ils étaient français. Et que d'ailleurs, ils allaient aussi devoir peut-être
faire
leur service militaire.
C'est
moi, ce que je crois, c'est qu'il y a dans une certaine catégorie d'administration, notamment dans le monde politique aussi. Il y a quelque chose qui est pas digéré, il y a quelque chose qui est pas passé, et c'est vrai que quand vous êtes franco-algérien homme en France, c'est beaucoup plus compliqué. C'est une réalité.
C'est factuel ce que vous dites.
Moi, de toute façon, on n'a pas besoin de le dire, oui. Et j'ai pas besoin d'une association lambda, quelle qu'elle soit, pour me le montrer. C'est presque du quotidien, et quel que soit votre niveau social, d'ailleurs. Hein. Ça ne change pas.
Mais c'est inquiétant ce que tu dis.
Il y a des choses qui sont...
C'est pour ça que je dis, est-ce que c'est factuel? Parce que,
c'est pas la France de manière générale. C'est des personnes, parce qu'ils ont une histoire, parce qu'ils ont ils ont un vécu, et que, quelque part, porter le mot Algérie, c'est un peu comme si il y avait un tabou derrière. Les Algériens d'Algérie, là-bas, on ne parle jamais de la guerre d'Algérie quand on est là-bas, on n'en parle pas.
Non, mais c'est pas un sujet.
D'ailleurs, l'Algérie n'a pas prévu de faire quoi que ce soit concernant cet événement.
Pourtant, pour l'Algérie,
c'est un événement hyper important, quand même. C'est étonnant, quoi.
C'est parce qu'il faut avancer à un moment donné. Et je crois qu'en France, on a tendance, et c'est le monde politique qui fait ça, à entretenir un peu. C'est pas une rivalité, comme tu as dit, comme s'il fallait faire la paix.
Je vais donner.
Mais on est en guerre avec personne.
Je fais le tour de table à Mitchriette. Je le rappelle simplement. Demain, vous savez, l'Élysée, elle a annoncé, donc il y a quelques jours, que cette cérémonie, elle est organisée. Il y a à l'Élysée, ils ont décidé de marquer le coup et d'organiser un événement dans un souci d'apaisement et des mémoires, et en même temps de main tendue à l'Algérie. Donc, au château, à l'Élysée, on souligne que il s'agira de commémorer et ne pas de célébrer. Commémorer n'est pas célébrer. Voilà. Petite subtilité. Amit Chriette, alors les 60 ans.
Moi, écoutez, je ne comprends vraiment pas ces débats en réalité en France. Lorsqu'il s'agit de la Shoah, aujourd'hui, on condamne. Je veux dire, lorsqu'il s'agit de l'esclavage, c'est un crime contre l'humanité. La colonisation, historiquement, est un crime contre l'humanité. C'est le président Emmanuel Macron qui l'a dit, et plusieurs historiens internationaux, au-delà des historiens français. Je rappelle que sur la question de la colonisation algérienne, il y a des historiens américains, des historiens anglais, des historiens algériens, des historiens tunisiens, des historiens marocains qui ont travaillé sur cette question-là. Il faut simplement que la France reconnaisse que la colonisation est un crime contre l'humanité. De là, les pays du Maghreb et la diaspora maghrébine ici, qui est franco-maghrébine, qui aiment la France, qui aiment aussi, qui sont français, qui aiment leur pays d'origine, un papa, une maman, puissent travailler avec la société civile, avec la France, leur pays d'origine, et leur pays, la France, leur pays où ils sont nés, et leur pays d'origine de leurs parents, les pays du Maghreb. Et je pense qu'au contraire, il faut utiliser la diaspora franco-maghrébine pour pouvoir développer une politique française.
Vous êtes d'accord avec ça ?
Il est là le vrai débat. Non. Aujourd'hui, attendez. Il est là le vrai débat. Oui. Il est là le vrai débat aujourd'hui. qu'est-ce que la France propose comme politique étrangère au Maghreb, et faisons le bilan d'Emmanuel Macron au Maghreb. Parler de commémoration de l'Algérie, etc., nous n'avons pas besoin d'Emmanuel Macron, nous n'avons pas besoin de la France. La colonisation algérienne est un mouvement historique, c'est une colonisation, c'est un événement historique reconnu comme crime contre l'humanité par tous les historiens du monde. Il n'y a pas besoin de reconnaissance. Rabbi. Elle est de facto un crime.
De facto.
Donc il n'y a pas débat.
Attends, il n'y a pas débat, monsieur. 19h32, j'ai même pas fait attention.
Est-ce que vous voulez débattre sur la Shoah et l'esclavage ? Il n'y a pas débat.
Bah, en tout cas, je sais que ça a provoqué des débats. Bien sûr. Ça a provoqué
des négationnistes.
Ça a provoqué des débats.
Non, il y a des débats.
Messieurs, s'il vous plaît, je vais juste, on va reprendre la parole. 19h32, c'est le Quad 9.
Les informés, le Quad 9.
Et il me permettra de, évidemment de parler de ce second sujet. Michel Taube, le patron d'Opinion Internationale, mais également éditorialiste. Bonsoir, mon cher Michel.
Bonsoir, mon cher Adil, et bonsoir à tous les auditeurs de Beurre FM.
Vous avez décidé de consacrer votre édito, votre billet d'humeur concernant les propositions d'Emmanuel Macron et son 4 heures de débat hier, échange avec la presse. On vous écoute.
Alors, bah, écoutez, je crois que c'était l'un des deux grands moments de sa campagne. Le premier pour connaître enfin le programme sur lequel il se présente aux Français. C'est quand même important d'avoir une idée de ce qu'il va faire pendant les 5 années qui viennent s'il est élu président de la République. Et puis le deuxième grand moment, ce sera le 2 avril, samedi 2 avril, pour son seul et unique meeting de campagne qui aura lieu à Paris. On ne sait pas où, dans Paris d'ailleurs, mais ça s'annonce quand même un gros événement. Alors moi, ce que je retiens de sa conférence de presse d'hier, c'est qu'en fait, au-delà des propositions qu'il a formulées, le RSA moyennant des heures de travail ou d'activité, donner plus d'autonomie aux directeurs d'école, transformer Pôle emploi en France Travail, bon, il y a plein de propositions qu'il emprunte à gauche, à droite. Je trouve qu'il se présente un peu aux Français comme un futur président d'Union nationale, c'est-à-dire qu'il a conquis le pouvoir une première fois, il a réussi à résister à de très nombreuses crises, et là j'ai l'impression qu'il s'est un peu posé en « Allez, après moi, quoi qu'il arrive, j'aurai face à moi au deuxième tour, soit Marine Le Pen, soit Jean-Luc Mélenchon, soit Éric Zemmour, mais ça c'est de moins en moins probable, je vais un peu faire une sorte de quinquennat d'union nationale avec toutes les bonnes volontés qui voudront bien me rejoindre. » Et donc je pense que la tonalité de son prochain quinquennat s'il est élu, tel qu'il l'a un peu annoncé, je trouve, dans son programme, c'est de continuer un petit peu dans la continuité de ce qu'il a fait, mais surtout d'essayer de faire une forme d'union nationale autour de lui. Bref, un peu comme l'avait fait Jacques Chirac en 2002, lorsque les circonstances ont fait qu'il était face à Jean-Marie Le Pen et que dès qu'il était élu, il avait essayé de rassembler, il n'avait pas du tout réussi d'ailleurs. Mais voilà, donc j'ai un peu l'impression que c'est un chef de l'État à la tête d'une forme d'union nationale rassemblant au centre le centre-gauche, le centre-droit, en faisant table rase autour de lui dans toutes les forces de gouvernement, j'ai envie de dire, dans toutes les forces politiques de gouvernement. Et puis, donc une sorte d'union nationale qui nous annonce un peu avant l'heure et vers laquelle on va certainement aller si il fait un carton dès le premier tour de l'élection présidentielle. En tout cas, c'est ce que moi j'ai retenu de son programme, de son en même temps, et qui prend des allures, encore une fois, d'Union nationale.
Union nationale, c'est le mot que je retiens. Merci Michel Taube et de cette analyse. Et j'invite tous les auditeurs à aller découvrir ou tout simplement aller regarder les analyses pointues d'Opinion Internationale. C'est votre média en ligne. Merci Michel Taube.
Merci, bonne soirée.
Bon week-end, à vendredi prochain à 19h35. Je vais vous écouter les deux avant de marquer la seconde pause pub. Karim Alouache, Maître Livinskit, Karim Alouache.
Non, moi, ce que je crois, c'est surtout...
Sur ce que disait Amit Chriat.
Non, mais il y a une réalité sur les binationaux, et je crois que l'Algérie commence... Vous savez, on a toujours dit, oui, pour la France, c'est une force, la double culture, etc. L'Algérie, aujourd'hui, est en train de regarder ça de très près et a pris conscience que c'est aussi une force de l'autre côté, d'avoir des binationaux, après tout, et d'en tirer le meilleur. Vous savez que les binationaux de naissance, hein, les après 62, sont les enfants, pour une grande partie, des combattants de la 7e Wilaya, hein, ces fameux combattants, d'ailleurs, qu'on a... On a eu tendance un peu, tout le monde a oublié, hein. On parle souvent des manifestations du 17 octobre. C'est les Algériens de France, hein, la manifestation du 17 octobre. Moi, je crois qu'aussi, il faut maintenant avancer. Il n'y a pas de débat sur la colonisation. C'est comme si vous me disiez, est-ce que la violence, c'est répréhensible ou pas? Ben voilà.
Il n'y a pas de débat. C'est ce qu'il a dit à Michel.
Mais moi, je trouve, il faut, juste pour conclure.
Il faut
en finir avec cette confrontation qui n'existe qu'en France. Pas en Algérie, il faut en finir. Je crois qu'il faut en finir réellement, et il faut en finir par un geste symbolique, peut-être. Vous savez, un peu à l'image de Mitterrand et de Kohl. C'est Kohl,
c'est ça, quand ils sont tenus la main devant,
en disant,
ils se sont tenus par la main, ils ont avancé main dans la main.
Et puis il y a une réalité, les enfants ne sont pas là pour assumer les parents. Et ce qui s'est passé avant,
personne n'est responsable. En quelques secondes, s'il vous plaît.
Voilà, oui, en quelques secondes. Bon, je suis d'accord, c'est un crime contre l'humanité. Ça, il y a pas de souci. De toute façon, toute forme de colonisation est un crime contre l'humanité. Après, je suis désolé de le dire, faut voir l'époque quand ça a été fait. C'était pendant 132 ans, je crois que c'était 1830, je crois.
C'est ça.
Oui, la colonisation de l'Algérie.
C'est ça.
Donc il y a aussi en fait une évolution des mentalités qu'il faut prendre en compte. À l'époque, en 1830, c'était pas un crime contre l'humanité, même si un pays ne doit pas envahir un autre pays, on est d'accord.
Non,
mais après, la réconciliation, non, pour moi, il n'y a pas. Ils sont français. Enfin, ils sont binationaux, mais ils sont français. Ils vivent en France, donc faut avancer en fait. Et voilà, faut avancer sur la question. Et comme tu dis, en fait, il y a qu'en France qu'on en parle. Donc faut arrêter en fait d'en parler de telle sorte. Il faut plutôt s'atteler au problème de discrimination. Exactement. Que les personnes d'origine maghrébine.
Allez, je dois lancer la pub. Effectivement. En France. Exactement, c'était le 14 juin 1830. Messieurs, tout de suite, nous allons parler du second sujet. Il nous faut qu'on avance. Hein. C'est celui des propositions de Macron, de sa campagne. Hier, c'était à Aubervilliers.
C'est des propositions?
Absolument. On en revient. On revient en parler et le commenter. Et j'ai oublié Auria. Mais ouais, elle est restée aller avec nous. Auria, je vous récupère juste après la pub. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h, 20h. Les informés avec Adil Farkan.
19h44, 45 même précisément. Tiens, je vais accueillir Auria tout de suite parce que je vais pas la laisser attendre. Auria, bonsoir Auria.
Bonsoir à toute l'équipe de Beurre FM.
Bonsoir, bienvenue. Nous allons traiter du second sujet, celui de Macron et ses propositions. Et évidemment, c'était hier à Aubert. On vous écoute, ma chère Auria.
Ben écoutez, déjà, je voulais vous dire, très bon débat sur la guerre d'Algérie, mais c'est vrai que c'est pas d'actualité, entre guillemets. Il faut passer à autre chose, il faut passer voir de l'avant. Effectivement, la discrimination, il y en aura toujours. De toute façon, je pense que la guerre d'Algérie est restée en travers de beaucoup de personnes, point barre. Maintenant, il faut avancer. De toute façon, on sera jamais aimé sur le territoire français, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, peu importe la classe sociale, encore plus quand on est en dessous de la classe moyenne, entre guillemets. De toute façon, le pouvoir, eh ben, c'est l'argent.
Aimé par Macron ou les autres?
Justement. Le pouvoir, c'est l'argent. Mais surtout, plus important, à tous ces politiciens qui se présentent, pour certains d'entre eux, vont avoir des casiers judiciaires. Est-ce que c'est bon d'élire un futur président, avec un casier judiciaire, sachant que quand un jeune...
Auriel a décidé d'être aujourd'hui méchante. Claire, concise et méchante. J'aurais pas dit méchante, mais en tout cas directe. Voilà.
Et surtout, en plus, quand un jeune a fait une bêtise à un casier judiciaire, je vous promets que les patrons regardent à deux fois. Maintenant, futur président avec un casier judiciaire comme M. Zemmour ou comme d'autres se présentent, excusez-moi, c'est une honte.
Clochette, Auria.
Monsieur Mélenchon, il a aussi un casier.
Maître Libeskind, exactement.
Pas de ceux qui ont.
Oui, parce que quand il a dit c'est moi la République, il a bousculé, je crois,
le procureur.
Merci Auria.
Il a été condamné.
Merci Auria d'avoir été avec nous et de votre de côté cash et direct.
J'aime beaucoup ce.
Oui.
Bah oui, voilà.
Un discours un peu radical. Auria.
C'est Auria comment?
Radical.
Un petit peu.
Légère. Légère. Elle est franche, voilà.
Alors, c'est Auria comment?
Bah non, c'est Auria tout court. Pourquoi c'est une auditrice? Elle va pas donner son famille, elle va pas décliner. Elle va pas décliner, évidemment.
Non, mais il faudrait l'inviter ici, c'est pas mal.
Une fidèle auditrice et je la remercie.
C'est un sujet qui revient souvent, l'histoire du casier judiciaire pour avoir un mandat électoral.
Oui. Messieurs, avant de vous retrouver et retrouver évidemment votre opinion, votre analyse très recherchée sur Macron, nous allons direction Rueil-Malmaison. Rafik, bonsoir Rafik.
Bonsoir cher Adil, j'espère que tout le monde va bien.
Bonsoir.
On vous écoute, mon cher Rafik.
Alors, moi, je voulais parler des propositions de Macron, où je rappelle qu'il a été élu avec très peu de voix, même s'il a été élu, et que...
66%.
Il a été mal élu.
Il y a beaucoup de macronistes ici.
Alors, il a avancé... Mais bon,
Adil, il va
avancer
par des messages.
Deux choses aussi, hein. Il faut dire qu'il a avancé sur peu de choses. Il a mis de côté la réforme des retraites, où on n'entend plus parler, et aussi sur l'éducation nationale. Donc je dis attention, il faut vraiment faire attention sur les prochaines élections.
Ben oui,
et surtout vis-à-vis de l'extrême droite. Donc je pense qu'il faudrait essayer encore une fois de mobiliser pour aller voter, mais surtout nous devons être exigeants. Et c'est surtout ça mon mot, c'est qu'on doit être exigeant pour les 5 prochaines années.
Exigeant, voilà, et surtout on le dira tout le temps, en permanence, ici dans les informés, présidentielle 2022. Merci Rafik, et au plaisir de vous retrouver ici même. Parlons-en. Tiens, Macron, qu'est-ce qui vous frappe? Qu'est-ce qui vous avez retenu? Qu'est-ce qui vous a choqué? Qu'est-ce que vous pouvez nous dévoiler? Qu'est-ce qui a retenu votre attention? Maître Livenskine.
Bah moi, franchement, son programme, il est anti-pauvre. Alors, déjà, laisse-moi. Déjà, il y a une petite tournure pétainiste.
Oh!
Parce que transformer le Pôle emploi en France Travail...
Oh là là, Maître Livenskine.
France Travail, ça fait un peu pétainiste, quand même, hein. Travail, famille, patrie.
Mettre la France au travail.
La France au travail. Non, mais transformer...
Ah, c'est pas famille, travail, patrie.
Non, transformer Pôle emploi...
Famille, patrie.
Excuse-moi, il y a un côté pétainiste.
Travail, famille, patrie.
Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, le RSA. Non, mais attends.
Allons-y.
Le RSA. Faire bosser des gens 15 à 20 heures par semaine parce qu'ils touchent le RSA, je trouve ça honteux. Il faut savoir que moi, j'ai eu une activité bénévole il y a 10 ans auprès des sans-abri. Il faut savoir que la majorité des SDF en France touchent le RSA. Ceux que vous voyez dans la rue, etc. Est-ce que vous voyez quelqu'un, en fait, qui dort dans la rue, aller au travail le matin?
Non.
Non, voilà.
Non, la réponse est
non, mais
comment il va se doucher, comment il va...
Voilà. Son programme, il n'est pas du tout réaliste, enfin, concernant le RSA. Moi, je trouve ça, franchement, honteux, quoi. C'est honteux, c'est transformer la misère par la misère, et non. Alors que...
Bon, moi, c'est clair. Maître Livenskine dit, il est très clair. Karim Alouache.
Alors, moi, je vais vous dire ce que j'en ai retenu. D'abord,
allez-y.
Il n'y a rien sur l'environnement.
Oui. Ah non, c'est macroniste qui me
dit. Il n'y a rien
sur l'environnement. C'est ça, je ne me trompe pas.
Non, mais ça, c'est pour les riches.
Peut-être qu'il va faire le retour chez les macronistes.
Non, un ancien marcheur. Alors, il n'y a rien sur l'environnement. Alors qu'on nous a quand même pas mal bassiné.
Ah si, il a quand même annoncé des mesures.
Il n'y a pas grand chose.
Non, il n'y a rien.
Il n'y a rien sur la ghettoisation. Il n'y a rien sur l'environnement. Il n'y a rien sur la ghettoisation. Comment on va régler les problématiques de ghetto dans les quartiers.
L'urbanisation.
Et sur le handicap, moi j'ai été
étonné.
Je pensais avoir des choses sur l'inclusion. La seule chose sur le handicap, c'est d'augmenter les ALSH dans les écoles. Mais il n'y a rien sur le handicap. C'est-à-dire qu'il assume. La deuxième chose que j'ai remarqué, c'est que donc il laisse en fait à Marine Le Pen, parce que pour moi c'est Marine Le Pen qui sera très très probablement au second tour, il lui laisse tout le volet social, il lui laisse toutes les classes populaires moyennes.
Oui, mais excuse-moi, Emmanuel Macron n'a jamais été pro-social.
Il a quand même été élu en 2017 avec le centre-gauche et toute la partie socialiste.
Oui, mais c'est...
Non, mais soyons d'accord. Il lui laisse, moi j'ai retenu qu'il lui laisse tout le volet social. Il lui laisse toutes les classes populaires moyennes déclassées. Vous savez, c'est les gens qui sont... On dit classe moyenne, mais on ne sait plus ce que ça veut dire. Et surtout, tout le sujet, toute la problématique de pouvoir d'achat.
Mais moi, je suis assez étonné de ta réaction, parce que Macron a toujours été...
Mettre les masques.
Il a toujours été partisan pour donner l'argent aux plus riches.
Et le dernier point, moi, ce que je trouve...
Donc, il n'y a pas de nouveauté,
Ce que je trouve gonflé de sa part, mais ça en dit beaucoup sur sa personnalité, et je l'ai noté...
S'il en a une.
Il annonce, avant même l'élection, deux grandes mesures qui sont détestés par l'électorat. C'est la retraite à 65 ans, mais là, d'emblée, il le dit. Oui. Et la deuxième chose, alors là, je suis sidéré. Au lieu d'augmenter ou de revaloriser les enseignants, il va les diviser en les différenciant sur les rémunérations. Ça veut dire qu'un enseignant, en fonction de ce qu'il fera, sera plus payé de la même manière.
Ahmed Triette.
Alors là, ça va être une cata.
Ahmed Triette. Au moins, il est clair quand même à l'Ouest.
Vous voyez bien qu'on fait partie. On fait partie
de la... Ah, il faut bombarder, on me dit. Vous
on
avez
fait partie de la même catégorie sociale. Et pourtant, nous avons le même constat sur Emmanuel Macron. Âge de la retraite, 65 ans. Il veut rénover 700 000 logements. 30 000 euros, plan d'investissement, on ne sait pas sur quoi. Sur la question de la politique étrangère, il souhaite qu'il y ait un grand débat. Il appelle ça maintenant pas un grand débat national, mais il souhaite que la société civile s'engage. Mais pourquoi elle ne s'engage pas sur les questions diplomatiques et politiques étrangères et internationales, sur la question de la vente d'armes, des commissions d'enquête, transparence de la justice, il n'y a rien. Sur la question de l'écologie, comme l'a rappelé Karim, absolument rien. La question de la relation entre le Maghreb, rien. Sur la francophonie, sur le handicap, rien. Il veut réformer le RSA avec 20 heures obligatoires de travail. Comment nous allons...
De formation.
De travail.
En réalité, il n'y a pas de programme politique. C'est un programme politique qui est chiffré à 50 milliards. Et ce n'est pas un programme politique. C'est du réchauffé. Il a repris ça, son ancien programme. Et en réalité, c'est des petites mesures.
On continuera d'en parler, messieurs. On continuera d'en parler.
Emmanuel Macron est frappé par l'insomnie. Donc il doit quand même un peu se réveiller. Et sortir, rencontrer les Français.
Je suis désolé, vraiment.
Il est 52.
Non, c'est pas ça, c'est pas qu'il est 52. Vraiment, il y a la pub. C'est là la pub, je suis désolé.
Vas-y, je fais la pub.
Karim, il est génial. C'est le financier qui le dit. Avec lui, c'est le jackpot. Je dois rendre l'antenne. Merci, Karim Alouache. Je suis désolé.
Un mot sur les 500 euros.
C'est quoi
le RSA?
Vite, 5
secondes. Moi, je trouve 495 que euros. Ça suffit de culpabiliser les gens. Et je ne pense pas que les gens qui sont au RSA ont choisi d'être
merci
au RSA.
Merci à Karim Alouache. Merci à Maître David Lebeskide. Merci à Amine Chriette. On vous retrouve très vite ici même, sur ce plateau, dans Les Informés.
Et mettons Emmanuel Macron travailler dans les cafés ou les bars et toucher le RSA. On verra comment sera sa condition.
Thème Sport 2021 avec Bilal Nedman. Bon week-end. Profitez-en bien.
Quel est le salaire de Macron?
Je vous retrouve. On peut lui fermer le micro
Et prenez soin de vous.
Il est à table.
Exactement. À lundi, avec autant de plaisir. Merci à Giovanni à la réalisation. On ne lâche rien. Ciao, ciao.
Retrouvez Les Informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.